Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous continuons notre réflexion sur la culture générale à partir de mon ouvrage « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années, mais encore disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous ? Nous en sommes au chapitre 5 de cet ouvrage consacré à l'homme symbolique. Nous faisons donc le portrait de cet homme symbolique et la dernière fois, nous avons analysé le problème de l'angélisme. J'avais cité la phrase de Pascal, « L'homme n'est ni ange ni bête et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête », vous voyez, hein ? Alors, nous avions vu ce qu'il en était de l'angélisme individuel. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'angélisme collectif. Il y a un angélisme collectif, en effet, c'est celui des civilisations exclusivement rationalistes et humanistes. Et il y a des catastrophes ou des chutes énormes qui guettent ces civilisations. Tout ce que disent les récits et les fictions symboliques sur les individus s'applique aussi au destin des peuples. J'avais cité lors des émissions précédentes le cas d'Icare, qui, à trop vouloir s'approcher du soleil, c'est-à-dire de la connaissance, de la conscience et aussi de l'idéal moral peut-être, eh bien, a été précipité dans la mer. Donc c'est une chute, une catastrophe qui succède à un excès d'exaltation. Alors, regardons ce qu'il en est pour le destin des peuples. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle dit des Lumières, siècle solaire. Ce siècle a déifié la raison, puisque Robespierre avait voulu rendre un culte à la déesse raison. Et Robespierre se disait lui-même, ou on l'appelait l'incorruptible, vous voyez. Eh bien, malheureusement, ce siècle des Lumières a connu Sade, a connu la terreur et a connu aussi l'œuvre de Goya à la fin du siècle, vous voyez. Donc, il y a une gravure de Goya qui montre cette tragédie. Le sommeil de la raison engendre des monstres. On voit un personnage accoudé sur une table et dormant, et au-dessus apparaissent des chauves-souris, des monstres, vous voyez. Donc, il y a des ombres noires du siècle des Lumières, en quelque sorte, puisque Laclos, Sade et Goya font l'objet du livre de Malraux, Le triangle noir, les ombres noires de ce siècle des Lumières. Donc, Laclos et Sade montrent où peut conduire ce que j'appellerais la désymbolisation rationnelle, c'est-à-dire la destruction des anciennes constructions symboliques, religieuses par exemple, au nom de la raison, et le retour à la simple nature. Donc, l'homme raisonnable ou logique est submergé par ses pulsions et ses instincts qu'il ne peut plus canalisé et contrôlé par des productions symboliques qui sont très affaiblies. Elles sont fragilisées, détruites même par la réflexion rationnelle. Et de cette submersion, voyez un exemple dans le tableau de Goya, Saturne, où Cronos dévorant ses enfants. Vous voyez, c'est extrêmement impressionnant de voir cette chair dégoulinante de sang. Eh bien, Saturne, c'est le temps. Le temps dévore ses propres enfants. Bon, mais je vois dans ce tableau de Goya le destin tragique de ce siècle des Lumières où l'on pensait que tout allait être maîtrisé par la raison humaine et où finalement, à la fin, on a l'horreur. J'ai parlé de 93, la terreur. Lors de la terreur, les têtes tombées comme les ardoises des toits par un jour de grand vent, dit un témoin, et les dieux ont soif de sang. C'est le titre d'un roman de Anatole France à propos de la terreur. Vous voyez, les dieux ont soif de sang. Alors prenons un autre exemple, pas seulement seulement la terreur révolutionnaire française, mais la tragédie de l'Allemagne au XXe siècle. L'Allemagne était un pays de haute culture, mais peut-être que cette culture était trop triomphaliste, trop lumineuse. On dit que Goethe, le grand poète allemand, qu'on appelait aussi l'Olympien, vous voyez, c'est symbolique, hein, eut avant de mourir ses dernières paroles « plus de lumière, mehr Licht, plus de lumière ». Alors peut-être simplement voulait-il que l'on ouvrit sa fenêtre, qu'il n'y voyait pas assez clair. Mais on s'est empressé d'interpréter ce « plus de lumière » dans un sens symbolique. Plus de raison, plus de clarté de l'esprit. Eh bien, malheureusement, plus tard, bien plus tard, il y a eu Auschwitz. Alors peut-être là s'est produite ce que Jung a appelé l'énantiodromie, c'est-à-dire le basculement au contraire, le basculement à l'opposé. C'est une notion que j'ai déjà évoquée dans les émissions précédentes. Jung s'est inspiré d'Héraclite. Hein. Les contraires se touchent, disait Héraclite. Hein. Eh bien, peut-être pourrait-on poser une sorte d'équation paradoxale. Alors, je dis bien volontairement paradoxale et sûrement injuste. Hein. Mais l'équation, le rapprochement des contraires pourrait nous faire dire Goethe égale Auschwitz. Je m'empresse bien de dire que c'est le contraire, mais peut-être que trop de triomphalisme amène par réaction le pôle opposé, si vous voulez. Hein. Rappelez-vous la phrase de Jung, hein, « À force de nier le diable, nous avons ouvertes toutes grandes les portes de l'enfer », vous voyez. Et Nietzsche disait déjà, je crois à partir de Baudelaire, il me semble, enfin, que la plus grande ruse du diable est de nous faire croire qu'il n'existe pas. En fait, il existe. Hein. L'horreur nazie, la barbarie nazie, aurait été en quelque sorte, entre guillemets, appelée par trop de triomphalisme. Cette Allemagne des Herr Doktor, des Herr Professor, hein, cette Allemagne extrêmement cultivée, comment a-t-elle fait pour basculer justement dans cette situation horrible? Le XVIIIe siècle a eu une mystique de la clarté libératrice. Vous voyez par exemple l'opéra de Mozart, la flûte enchantée. Hein. Elle est toute imprégnée, cette musique, de l'idéologie maçonnique, des francs-maçons. Hein. Alors effectivement, le sujet de la flûte enchantée, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Zarathustra, le lumineux, doit l'emporter sur la reine de la nuit. Mais on ne triomphe pas facilement et jamais complètement des forces de la nuit. Il y a aussi le destin de l'Angleterre victorienne, vous voyez, donc j'ai parlé de la France, de l'Allemagne, pourquoi pas l'Angleterre? L'Angleterre victorienne était prude et habillée, comme je l'ai dit dans une émission précédente, elle habillait de petits pantalons, les jambes des chaises, en anglais legs, hein, c'est les pieds des chaises, hein, puisque alors on pensait qu'il était impudique de les laisser nus, donc on mettait des petits pantalons. Eh bien, cette Angleterre victorienne a incarcéré Oscar Wilde pour homosexualité, et a suscité Jacques l'Éventreur, par exemple, vous voyez. Hein. Donc, à trop vouloir se contrôler, hein, trop de self-control amène précisément à une catastrophe. Même l'humanisme, vous voyez, est problématique. Hein. Cet humanisme, je ne veux pas dire l'humanisme en général, hein, l'humanisme qui défend les droits de l'homme ou l'universel contre les coutumes particulières qui peuvent engendrer la barbarie, cet humanisme-là, il faut le défendre. Hein. Mais j'appellerai l'humanisme problématique celui qui est une sorte d'humanisme sirop, comme un sirop, un humanisme bêlant, inconditionnel, un humanisme angélique et idéaliste, vous voyez. Un humanisme aujourd'hui, comme on dirait, bisounours, voilà. Nous vivons au pays des bisounours. Hein. Je pense par exemple à cette mystique de la fraternité, très répandue au XVIIIe siècle, et depuis, alors on entend dans l'hymne à la joie de Schiller, donc dans la 9e symphonie de Beethoven, la phrase suivante, tous les hommes deviennent frères. Alors c'est évidemment l'hymne européen aujourd'hui, hein. Bon, c'est très beau, hein, c'est très beau, mais cela peut dégénérer en catéchisme humaniste, en vulgate humanitaire, qui est encore en vogue. Naguère, on disait nous sommes le monde, nous sommes les enfants, hein. C'est la chanson pour l'Éthiopie, il y a quelques années. Hein. Bon, donc finalement, méfions-nous de cet humanisme excessif. Hein. Par exemple, Camus rapporte dans La Chute le fait suivant. Lors de la dernière guerre, un officier nazi qui avait capturé deux frères demanda à leur mère lequel des deux il devait fusiller. Il lui laissait le choix. Choisissez entre vos deux enfants. Alors comment, après cela, après avoir connu cela, comment croire encore à l'humanisme, à la fraternité des hommes? Nous savons maintenant ce dont nous sommes capables. Voilà, j'espère que je ne choque personne en critiquant l'humanisme. Je rappelle qu'il y en a deux humanismes. Un humanisme idéal tout à fait légitime, l'humanisme universaliste, mais aussi une version édulcorée, banalisée de cet humanisme qui me semble manquer de lucidité. Nietzsche disait « Je crois moi aussi que l'humanité finira par triompher, mais je crains que le monde ne devienne un vaste hôpital » où chacun ne devienne l'infirmier de son voisin, vous voyez, hein ? Donc cette parole de Nietzsche montre bien ce qu'on pourrait appeler l'indécente promiscuité de l'humanisme. Alors on tape sur l'épaule ou sur le ventre de son voisin pour mieux le mettre, comme on dit trivialement, dans sa poche. Hein ? Et la plus belle parole peut-être jamais prononcée, la parole évangélique « Aimez-vous les uns les autres hein, » devient aujourd'hui, dans fin de partie de Beckett, Léchez-vous les uns les autres, allez-vous-en et léchez-vous les uns les autres, vous voyez. En effet, alors prenons le cas de quelqu'un qui a de la peine. Bon, nous pensons qu'il faut toujours aller le consoler, mais est-ce qu'on en est sûr de ça? Il n'est pas sûr qu'il soit décent d'aller toujours consoler celui qui a de la peine. René Char dit très bien « Les larmes méprisent leurs confidents ». Et dans « Qu'ils vivent », il dit « Dans mon pays, on ne console pas un homme ému ». Parce qu'il y a là une intrusion inadmissible dans l'intimité de quelqu'un. C'est assez indécent. Et non seulement l'humanisme est indécent, mais il est naïf. Plus il est marqué, plus il est affiché, plus il est triomphal, plus il est naïf. On dit « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil hein. ». Ou « La vie est un long fleuve tranquille ». Si vous voulez bien que le film critique justement cette vision naïve. Hein. Alors on est passé de la vie vue comme une vallée de larmes, comme le disait le Saloué Regina, naguère, hein, à la vie comme une succursale du club Méditerranée. Hein. On est passé de l'homme loup pour l'homme, comme le disait Hobbes, hein, au boy scout ou bien au gentil animateur ou au gentil organisateur, vous voyez. Alors je sais bien que le livre d'Isaïe nous dit que le loup et l'agneau dormiront ensemble. Peut-être qu'ils dormiront ensemble, le loup et l'agneau. Mais comme disait Woody Allen, l'agneau ne dormira pas beaucoup, vous voyez hein. Donc, il faut donc penser aussi au danger de l'irénisme. Irénisme vient du grec eirene, qui veut dire la paix. Hein. Cet irénisme, on le voit dans certains discours pacifistes. Donc, je pense qu'il faut être pacifique, bien sûr. Mais quant à être pacifiste, cela peut poser problème. Jésus lui-même n'était pas toujours pacifiste, hein, puisqu'il nous dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive hein. ». Et il n'était pas angélique non plus, puisqu'il dit bien « Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux », vous voyez, hein, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 34. Hein. Donc, méfions-nous ici de la naïveté. Hein. L'excès même et l'irréalisme du discours d'aujourd'hui devraient devrait nous inquiéter. Alors aujourd'hui, il y a plein de sentimentalisme, hein, d'intérêt porté aux autres. Bon, en soi, ce n'est pas mauvais, mais nous sommes à la fois à l'époque du Téléthon et l'époque de la barbarie, les hordes urbaines, vous voyez, hein. Donc, on n'a jamais été aussi sentimental et aussi barbare. Notez bien qu'on peut manipuler l'empathie aussi, hein, faire un fonds de commerce d'une empathie que l'on adultère. Vous voyez que l'on chante la meilleure des choses. L'empathie peut être utilisée à de mauvaises fins. Je pense qu'il faut il faut être lucide. Il faut se méfier des civilisations pacifiées. Alors, je dis toujours, en jouant sur les mots, pacifiées, hein, pacifique. Pacifier, ne pacifier, vous voyez. Hein. Donc, on commence par être serein, EIN, et on finit par être serein, IN, vous voyez. Hein. Donc, on est trop naïf. Et la sagesse populaire le dit très bien. Hein. Parlez doucement, mais avec un gros bâton, vous voyez. Hein. Ou bien alors, poignet vilain, il vous oindra. Oignet vilain, il vous poindra. Hein. C'est-à-dire, si tu caresses quelqu'un, il se vengera de toi. Hein. Nourris les corbeaux, ils te crèveront les yeux, je crois, on dit « cria cuervos », hein, dans le film de Carlos Saura. Hein. Bon, et si au contraire on frappe quelqu'un, alors il nous bénira. Bon, c'est évidemment, c'est très cynique. Je ne dis pas qu'il faut toujours en faire une règle. Mais déjà, César avait bien dit « si vis pacem, para bellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Alors, je me demande à propos de l'enseignement de Jésus, si une parole évangélique qui est très belle en soi, comme « tendez l'autre joue hein, », si on te frappe sur la joue, « tendez l'autre joue » est vraiment praticable, vous voyez. Hein, est-ce que cette parole du sermon sur la montagne est vraiment susceptible d'application? Je n'en suis pas sûr. Hein, je n'en suis pas sûr. Donc, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'était le titre d'un film de Jean-Yann Naguère, hein, qui critiquait précisément le sentimentalisme au nom d'une plus grande lucidité. Parce que, finalement, à trop s'exalter dans la pureté, comme je l'ai dit lors des émissions précédentes, on va tomber, hein, ou dans l'idéalisme, à trop s'exalter dans l'idéalisme, on va tomber dans l'excès inverse. Hein. Et alors va apparaître l'homme sauvage, le Wildermann des Allemands, l'homme sauvage. On peut verser dans la sauvagerie ou devenir un homme sauvage par idéalisme déçu. Déçu. Je prends par exemple le cas de Gilles de Rais, qui était un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Eh bien, Gilles de Rais ne s'est jamais remis de la mort de Jeanne sur le bûcher. Il l'aimait beaucoup, Jeanne, hein, il la servait fidèlement. Et qu'une sainte qu'il admirait au plus haut point ait été brûlée, eh bien, ce fut la commotion de son âme. Que penser d'un monde où le plus digne est piétiné? Alors Gilles de Rais, par réaction, est devenu le barbe bleue du Moyen-Âge, comme on dit. Il a assassiné sauvagement des enfants, et le monstre qu'il fut le dépit ou la revanche de l'ange qu'il ne put être, vous voyez, dans un monde qui brûlait les anges. Voyez là-dessus le texte de Huysmans qui s'appelle « Là-bas hein, », ou encore le texte de Michel Tournier, « Gilles et Jeanne », vous voyez. Hein. Donc, il ne s'est pas remis, justement, du séisme où l'a placé la mort de Jeanne. Alors, c'est un reniement, il peut exister un reniement de l'idéal, un reniement, je dirais, postulatoire. Baudelaire le dit dans le reniement de Saint-Pierre. Il dit « Certes, je sortirai quant à moi satisfait d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. Puissais-je user du glaive et périr par le glaive ?» Saint-Pierre a renié Jésus. Il a bien fait, vous voyez. Hein. Donc, l'horreur absolue, c'est souvent là où est conduit l'idéaliste absolu. Hein. Un esprit impressionnable est ainsi sur le fil du rasoir. Voyez le cas du colonel Kurz dans « Au cœur des ténèbres » de Conrad. Hein. Il a basculé dans l'autre monde, ou le côté sauvage, « The Wild Side hein. ». pour avoir vu trop d'horreurs et n'avoir pu s'y habituer. Et Marlon Brando faisait bien voir cela dans le film de Coppola tiré de ce récit, qui s'appelle Apocalypse Now. Hein. Les enfants vietnamiens que l'on avait, auxquels on avait fait des injections pour les vacciner, ont eu les bras coupés. Hein. Et ces bras coupés précipitent le colonel Kurtz dans la folie et dans le sang. Comment continuer à être humaniste après avoir vu tout cela, hein. Voyez ce que dit Kurtz dans Apocalypse Now. On trouve indécent d'écrire, alors il le dit un langage cru, hein, d'écrire foutre sur les avions et on bombarde les Vietnamiens. Voyez, qu'est-ce qui est le plus indécent, hein? Un gros mot, hein, écrit sur la carlingue d'un avion, si vous voulez, ou bien bombarder les Vietnamiens, le napalm, etc. Et de la même façon, dans Taxi Driver de Martin Scorsese, vous avez, qui est tiré du livre du même titre, hein, vous avez la phrase suivante: « Pour donner ma bénédiction de mort à cette grande nation qui m'a appris à tuer en me disant « Tu ne tueras point », vous voyez. Donc on peut exploser dans le démonique, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, en voyant justement que les idéaux ne sont pas incarnés, hein, et que les gens, ils sont piétinés, ces idéaux. Alors on peut conclure comme Fritz Zorn dans Mars, hein, j'ai déjà signalé le cas dans une émission précédente de ce personnage, Fritz Zorn, qui a été atteint d'un cancer parce qu'il avait subi une éducation trop policée, trop bon chic, bon genre, comme on dit, hein. Eh bien, le texte s'achève par « Et vive à la muerte, vive la mort ». C'est-à-dire, il se décrète un état d'insurrection totale et il prend le nom de Mars, le dieu de la guerre. Donc, les fous, je dirais, sont ceux qui volontairement accentuent la sauvagerie et y ajoutent par lucidité supérieure et par refus de s'aveugler sur l'homme, comme y invite le catéchisme civilisé, qui est anesthésiant. Hein. D'où alors la provocation maximale, l'iconoclasme moral ou culturel. Par exemple, prenez Caligula de Camus. Hein. On y voit de la façon la plus provocante qu'on peut commettre sciemment tous les abus pour savoir jusqu'où l'homme va s'abaisser en les tolérant et jusqu'à quel point on peut le mépriser, vous voyez, hein. Et si vous voyez aussi le film de Bertrand Tavernier, Coup de torchon, vous avez la même chose. Alors ici, ce n'est pas une culture qui meurt, hein, mais ce qui meurt, c'est une conception anesthésiante de la culture. J'ai dit que la folie parfois était lucide. À propos d'Artaud, j'ai dit Artaud était lucide allié et non pas fou allié, hein. Bon, donc, voyez aussi Ludwig ou le crépuscule des dieux de Visconti à propos de Louis II de Bavière, vous voyez, hein, il était sûrement hyper lucide, hein. Alors, il suffit justement d'une question de trop qu'on se pose pour basculer dans l'autre monde. C'est ce que dit Anouilh dans Antigone, dans la parabase du cœur d'Antigone. La folie est une sorte d'exigence supérieure. Une question de trop qu'on se pose un soir, comme de quelque chose qui se mange. Alors, de quel type sont ces questions? Eh bien, des questions toutes simples. Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Camus, Caligula, vous voyez. Ou bien, êtes-vous heureux dans le film de Takela, Cousin-cousine, vous? Vous voyez, donc il me semble que ces questions toutes simples, élémentaires, eh bien, la culture anesthésiée ne se les pose pas, hein, mais l'esprit lucide précisément, qui va le faire paraître fou aux yeux de la foule, en quelque sorte, hein, c'est celui qui se pose ces questions. Alors aujourd'hui, on peut voir l'humanisme comme une imposture philosophique, la représentation du conformisme. Sartre traite les humanistes de salauds, par exemple, dans La Nausée. Hein. Ils s'endorment eux-mêmes et ils endorment les gens. Et la vie qu'ils nous montrent est aseptisée et idéalisée, irréelle. C'est le règne des représentations factices dont parle Simone de Beauvoir dans Les belles images. Effectivement, les belles images sont celles d'une culture anesthésiée, les cartes postales académiques, inoffensives et sans rapport avec notre vie. Elles sont sages, précisément, comme des images. On dit sage comme une image. Hein. Prenez une carte postale du Parthénon. Elle va incarner l'humanisme occidental pour nous. Mais enfin, elle ne va pas consoler un chômeur ou bien un malade grave, un cancéreux, un sidéen, etc. Vous voyez, hein. Donc la folie, c'est Elle est un arrachement, en quelque sorte, de ce que Jung appelait la persona, le masque social. Et elle est un désir de faire réagir les gens par provocation. Ainsi Baudelaire, dans « Assommons les pauvres », montre justement un homme qui assomme un mendiant pour voir si le mendiant aura le courage, justement, de se redresser. Et au miracle, il se redresse. Alors, l'agresseur lui dit « Je lui avais rendu la dignité d'être humain ». Dans « Le mauvais vitrier », même chose, il y a un geste fou qui est fait pour faire réagir. Baudelaire, c'est pas simplement le poète des fleurs, etc. C'est aussi le poète des petits poèmes en prose où il y a un humour noir, un humour lucide et acerbe, vous voyez. Dans Le mauvais vitrier, le démon de Socrate, qui est un démon prohibiteur, est remplacé par un démon véritable, un démon instigateur. Faire quelque chose d'inouï pour faire réagir les gens et secouer la torpeur de la doxa, de l'opinion publique. Et une société est exténuée lorsque l'agression n'a pas de réponse immédiate. Elle n'a pour réponse que le médecin ou l'avocat. Vous voyez par exemple le film de David Fincher qui s'appelle Fight Club, vous voyez. Il y a donc une hypocrisie du langage et de la doxa. Par exemple, prenez la sacralisation du travail. Le travail rend libre, c'est une expression de sinistre mémoire, puisqu'il figurait au fronton des camps de concentration, ce mot-là. Non, le travail, au contraire, aliène et humilie, vous voyez. Alors on dit travailleuse, travailleur, mais est-ce qu'il y a de quoi être fier? Bon, on pourrait dire que c'est euphémiser la prostitution, de certaine façon. Il y a aussi le kitsch du héros positif socialiste, celui-là même que Céline a démystifié dans Voyage au bout de la nuit, et surtout Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être. Vous voyez, le kitsch, alors là, pardonnez l'expression, mais Kundera le dit, c'est la négation absolue de la merde, vous voyez. C'est, euphémiser justement le travail de cette façon. L'effort humain, dit Prévert, l'effort humain porte un bandage hernière, etc. Et en réaction contre tout cela, Lafargue, le gendre de Marx, avait parlé du droit à la paresse. Alors, le kitsch, c'est ça, c'est ne pas voir la réalité. Alors, de toute façon, nous serons tous kitschisés post-mortem et nous n'y pouvons rien. Sur notre tombe, il y aura toujours bon père, bon époux, etc. Il n'y a que des gens bien dans les cimetières. On peut se demander où on met les autres. Il n'y a pas de crapules. Mais tout cela est absolument faux. Donc, finalement, voyez Brassens, le temps passé, il est toujours... joli le temps passé, sitôt qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne toujours à ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous de braves types. Voilà, eh bien je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. J'espère que ce que j'ai dit ne vous aura pas trop choqué. Mais il faut de temps en temps secouer la torpeur idéologique pour faire jaillir quelques étincelles de sagesse. Voilà, alors rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.